Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans l'émission « La vie est un roman » d'Yves Tanret. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez n'est pas celle d'Yves, le créateur et l'animateur de cette émission qui fête ce mois-ci ses 10 ans d'existence, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay. Yves, on sait que tu nous écoutes, sache qu'on pense à toi et qu'on espère te revoir très vite. Nous avons le plaisir de recevoir François Angelier. Bonjour François.
Bonjour.
Alors François Angelier, vous êtes animateur radio de l'émission Mauvais Genre, avec un S sur France Culture, diffusé en direct le samedi soir, mais aussi écrivain, essayiste, éditeur, directeur de collection. Vous proposez cette émission depuis un certain nombre d'années. Mmh. Vous défendez dans Mauvais Genre tout ce qui, dans la création, échappe au bon goût, aux académies, aux institutions, aux musées. Autrement dit, le bizarre, le transgressif, le déviant, le marginal, la contre-culture, en un mot, l'underground. Mmh. Alors, ça vous vient d'où, ce goût pour tout ce qui sort des normes et de l'ordinaire ?
Ça me vient de très loin, puisque c'était déjà ce goût était déjà celui de mon père, qui avait un penchant affirmé pour tout ce qui était bizarre, pour tout ce qui était singulier. Je vous parle des années 60 et 70, donc déjà la bande dessinée, le cinéma, le film noir américain, le surréalisme, la photographie, l'humour noir. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. Mon père était par ailleurs fonctionnaire, donc il arrivait à conjoindre son goût du mauvais genre et la ponctualité de son métier. Mais voilà, ça me vient déjà de là. Enfin, alors, ça aurait pu ne pas prendre, ça aurait pu être un héritage que j'aurais tout à fait pu refuser, ou en tout cas ignorer ou minorer, et pas du tout. J'ai vraiment hérité de tout ça, et j'ai essayé, comme on dit toujours, en bon fils, de faire fructifier l'héritage. Et mauvais genre est pareil, et d'une certaine manière, la fructification, le placement réussi, comme on dit, de cet héritage-là. Donc il y avait déjà ce point de départ. Et puis, il y a un penchant que j'ai de naturel et permanent pour tout ce qui sort des clous, quoi. Tout ce qui est étrange, marginal, singulier. Et surtout pour le problème que pose la traduction de ces expériences. Que ce soit le désir, que ce soit la terreur, que ce soit l'extase, tous ces états limites, comment les traduire, c'est-à-dire la traduction verbale, la traduction graphique ou cinématographique. Donc c'est à la fois un penchant personnel et un héritage.
Alors, c'est-à-dire que concrètement, très tôt, vous avez eu entre les mains des magazines, des films, des revues, des photos qui relevaient de choses qui étaient hors normes, hors catégorie.
Ben c'est vrai, moi j'ai grandi devant une lithographie d'Hans Bellmer. J'ai vu mon père lire Little Nemo, les premières éditions chez Pierre Auret, lire Midi Minuit Fantastique. Et puis comme il m'emmenait une fois de temps en temps, il allait régulièrement à Paris pour voir les expositions, pour fréquenter les libraires et tout ça. Donc je l'accompagnais de temps en temps, donc j'ai connu en montant le Minotaure, le Palimugre, le Terrain Vague, toutes ces librairies. Donc si vous voulez, pour moi, le mauvais genre est de l'ordre de la formation de départ, quoi. C'est presque de la scolarité.
Et en même temps, dans le même mouvement, vous avez reçu une éducation traditionnelle, entre guillemets, catholique.
Oui, absolument, puisque mon père était catholique, tendance esprit, vous voyez, Albert Béguin.
La seconde gauche.
Voilà, la gauche catho des années 50-60.
Michel Rocard.
Lui,
c'est protestant.
Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'était plutôt le côté Béguin. Vous savez, Albert Béguin, qu'on ne lit plus guère aujourd'hui, qui était cet homme extraordinaire, qui était à la fois un disciple et un soutien fervent de Bernanos, et en même temps, l'auteur de ce livre fondamental, qui est L'âme romantique et le rêve. On était avec lui chez Hoffmann et chez Saint-Bernard. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'était les deux sources.
Et vous assumez pleinement les deux, hein, la tradition et sa transgression, le catholique et l'hérétique.
Oui, d'une certaine façon.
Vous vous surnommez vous-même un monstre à deux têtes.
Oui, c'était la situation de départ. Alors, ça peut être problématique puisqu'il faut éviter comme de sombrer dans une espèce de schizophrénie où l'un cherche à dominer l'autre, où l'un cherche à faire honte à l'autre, que ce soit le catholique et l'hérétique. Mais c'est un peu ça. Oui, il y avait une espèce de bicéphalie qui était celle peut-être de mon père, dont j'ai hérité aussi. C'est les caractères transmissibles. Et donc, voilà. Comme j'ai déjà dit, la stéréo a fini par se faire. Donc après, on a eu un mélange des deux, ce qui n'est pas,
ce qui va pas
compatible,
de soi.
Parce que qui est le plus au contact, je dirais, des abîmes de l'âme et que normalement que les saints ou les curés, enfin les curés dignes de ce nom. C'est pour ça que je travaille sur Bernanos, puisqu'on est, on est dans un catholicisme qui va au carton, comme on dit chez les militaires, c'est-à-dire qui affronte le diable, qui n'est pas quelque chose d'un peu refluent et tranquille, quelque chose qui déferle.
Alors, on peut dire peut-être qu'il vaut mieux être schizophrène que maniaco-dépressif ou bipolaire ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut avoir comme ça ces espèces de polarité, de mise en tension, vous voyez. À partir du moment où vous avez ce genre de mise en tension, c'est très stimulant pour l'intellect et très excitant pour l'individu, comme ça. Il faut pas surtout sombrer dans une espèce de désespérance un peu bétasse, de dire « Oh, bah, qu'est-ce que je choisis ? Alors, est-ce que je suis... » C'est Rachilde qui disait qu'elle était nonne et monstre. Donc l'idée, c'est est-ce que, alors faut pas se demander, est-ce que je suis une nonne, est-ce que je suis un monstre, alors, ça ne mène nulle part. Je veux dire, il faut essayer de voir, il y a l'un dans l'autre en permanence.
Oui, c'est ça, ce qui se rejoue en vous quelque part. C'est un peu... D'abord, on peut dire avec Hegel que seule la contradiction est vivante.
Voilà, bah oui, absolument.
C'est ça qui nous fait vivre.
Hegel avait raison.
Voilà, sur la contradiction. Et surtout, bon, ce qui se rejoue en vous et dans votre travail, dans votre œuvre, c'est cette fameuse opposition entre art majeur et art mineur, art savant et art populaire, et donc plus précisément entre le sacré et le profane. Alors, vous venez de le dire, l'un ne peut pas aller sans l'autre, finalement.
Oui, et puis on observe d'étranges métamorphoses et des mutations singulières, c'est-à-dire que ce qui était mineur devient majeur, ce qui était transgressif devient central, ce qui était de l'ordre de l'aberration devient une forme de norme. Je veux dire, c'est aussi vrai dans l'Église que dans les... Je veux dire, il y a une époque où ouvrir un cadavre, c'était un crime. Aujourd'hui, c'est plutôt devenu, je dirais, quelque chose... Enfin, pas aujourd'hui, mais bon avec l'évolution des siècles, c'est devenu quelque chose de tout à fait habituel et même de... Bon, j'ai même plus la peine d'en parler. Donc, je veux dire, c'est pareil, il y a toute une sorte de phénomène déjà naturel qui ramène vers le centre. Alors, toute la question est là, je veux dire, c'est pour le bénéfice de qui ? Est-ce que le centre, c'est-à-dire l'institution, la vision normale, s'enrichit des marges, ou est-ce que les marges se dénaturent à aller vers le centre ? Éternel débat. Je sais que sur la question du mauvais genre, par exemple, certains pensent que les marges doivent rester les marges, et que d'une certaine façon, il faut éviter surtout ce genre de pacte ou de mitigation, comme on dit.
De compromission.
De compromission, voilà. Personne n'y gagne rien, puisque le centre ne peut fondamentalement pas accepter, valider tout ça, et les marges n'y gagnent rien non plus. Donc voilà, il y a tout un champ de travail, de réflexion là-dessus.
Alors vous avez dû vous interroger vous-même, à savoir si à mauvais genre, vous participiez de la normalisation des avant-gardes et des mouvements parallèles ou alternatifs. Si vous n'aviez pas participé à une sorte de nouveau conformisme.
Alors voilà, ça c'est une question qui est permanente, puisque quand l'émission a démarré à la fin octobre 1997, on était dans une autre époque. Une autre époque, je me souviens que... Quand j'annonçais les sujets de l'émission dans les réunions de production, il y avait une sorte de silence. Soit on considérait que c'était amusant, soit on considérait que ça n'avait rien à faire là. Et puis avec le temps, quelque chose s'est fait. Tout cela est devenu non seulement, validé, accepté, mais en même temps promu et considéré comme une forme de vérité comme une autre, une forme de pratique comme une autre. Alors, quel rôle on a joué là-dedans, ça j'en sais rien. Je pense que ça se fait à l'échelon général, à l'échelon des sociétés. Nous, on a simplement ouvert une sorte de... d'asile de nuit où un type de création n'était pas reçu et d'ailleurs ne sont toujours pas si reçus que ça. Il ne faut pas non plus être persuadé que le mauvais genre est aujourd'hui un produit de consommation courante et que ce dont nous parlons est non. C'est ça, les partages continuent, et d'autant plus aujourd'hui où se mêlent des questions morales, des questions, théoriques, et voilà. Nous, on continue d'être une sorte de... Moi, je dis souvent la petite maison sur la colline, c'est-à-dire un peu le Bates Motel, comme on dit, le psychose d'Hitchcock, une espèce de lieu... qui est fréquenté par, les chasseurs solitaires, les loups solitaires, les adolescents inscolarisables, les monstres, ça reste quand même, malgré tout, on a pu un moment penser que la partie était jouée, mais non.
Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que vous donnez la parole à des personnes qui ne sont pas écoutées ou qui ne sont pas visibles ni audibles, et surtout qui, commercialement, économiquement, n'arrivent pas à vivre de leur art. Donc c'est ça qui est précieux dans votre émission.
Oui, absolument. On est un peu là pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas ailleurs. En plus, c'est pas parce qu'on est à la mode qu'on est accepté. Enfin, je veux dire, il y a une espèce de courant être considéré comme... l'objet d'un... On a toujours lutté contre cette espèce d'encanaillement, vous savez, un peu comme la bourgeoisie de la Belle Époque qui allait à Montmartre pour voir, les chansonniers, les danseuses, les hurluberlus, les hydropathes et autres, ou contre la bourgeoisie années 50 qui allait chez Michou pour se donner le frisson. Donc on a toujours refusé la notion d'encanaillement et
de bête de foire.
Nous on est là pour à la fois, c'est une profession de foi et c'est une sorte de partage d'émotions sincères. Parce qu'il y a effectivement, on est sincèrement participant de tout cet univers-là.
Oui, ce qui compte avant tout pour vous, vous l'avez bien dit, c'est pas tant l'objet qui est promu, mais l'émotion qui a sa source, le sentiment.
Oui, c'est le fondamental, voilà. Le fondamental, c'est l'émotion, c'est-à-dire on est plus des passeurs d'affect et des trafiquants d'émotions que des débitants en produits marginaux. Si les choses dont on parle, on en parle parce que d'abord et avant tout, elles nous bouleversent, ou elles touchent en nous quelque chose de profond, d'inquiétant, et c'est après qu'on peut commencer à avoir un discours, plus culturel, plus historique. Mais il y a d'abord une émotion centrale, quoi, comme ça.
Je me demandais si, à travers toutes vos recherches et vos enquêtes, vous ne recherchiez pas toujours... ce moment particulier où Adam et Ève se retrouvent devant l'arbre entre la pomme et le serpent. Est-ce que c'est pas un art de la tentation que vous essayez de promouvoir ?
Je crois pas. Je crois pas. On est... c'est-à-dire qu'on ne se tourne pas vers le public en essayant de le faire. Vous savez, c'est un peu comme le bandimenteur qui est à la porte du striptease et qui vous dit « Ce que vous n'avez jamais vu, vous allez le voir, les plus belles filles du monde, des spectacles hallucinants. Enfin, » Le côté sideshow, le côté un peu, vous savez, les spectacles de phénomènes à l'américaine.
Les freaks.
Alors, on n'a pas un discours de bandimenteur. On est plus dans une sorte de discours... À la limite, vous voyez, vous êtes dans un espace d'auberge, vous dînez, et puis brusquement, le serveur arrive et il a trois bosses, c'est la créature de Frankenstein. Alors on est surpris, on dit, tiens, mais le personnage est là, et il accepte, il circule. Vous voyez. C'est plus de cet esprit-là plutôt que de promettre toujours ce que vous n'avez jamais vu.
Je ne pensais pas à ça, je pensais au fait de à ce moment où on est complètement troublé, bouleversé, voire, et tous nos repères se perdent.
Oui, alors là, oui, d'accord, oui, absolument. L'idée de la perte des repères...
Et du contrôle et de la maîtrise.
Absolument. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est aussi d'amener l'auditeur vers une sorte de suspension de toutes ses défenses, de ses garde-boues, de ses garde-fous, de tout ce qui est de l'ordre. J'ai pas rappelé des rappels, il y a quand même une volonté
across his brother's fist. That filthy fight did nothing to challenge or resist. In heaven it's wrong, there's a bed of gold, and the ark of his testament is stone. The throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's a made of more than one, and my body is on fire. And God is a never far away. Into the mercy seat I cry. My head is shaved, my head is wired, like a moth that tries to enter my bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide and death a while.
FM 93.1.
Dans l'émission La vie est un roman d'Yves Tanré, présenté par Frédéric Gournay, son fidèle chroniqueur, et nous recevons aujourd'hui François Angelier pour tout son travail à Mauvais Genre sur France Culture, mais aussi pour son travail d'éditeur, de directeur de collection, d'essayiste et d'écrivain. François Angelier, vous avez choisi Nick Cave, Mercy Seat. Pourquoi ce morceau ?
Bah parce que d'une part, c'est un morceau qui me, comment dirais-je, me soulève, m'électrise, c'est le cas de le dire, me met dans tous mes états chaque fois que je l'écoute. D'ailleurs, la version live, beaucoup plus que la version studio. Et puis, je trouve l'histoire extraordinaire de ce personnage qui est sur le... Quand la chaise électrique devient le trône de Dieu, c'est-à-dire quand il y a une espèce de... D'abord, la montée en puissance, la montée vers l'incandescence qui est à la fois de l'âme et du corps. Comme ça, il y a une sorte d'état mystique. C'est ça qui m'intéresse. C'est une tentative de retracer une espèce de montée vers la... espèce d'extase mortifère en même temps.
Avec l'idée du jugement dernier.
Oui, c'est ça, avec l'idée d'une comparution devant le juge.
Un autre tribunal cumin.
Exactement. Et moi, je suis très sensible chez les rockers à toute cette dimension de prédication apocalyptique et d'invocation du jugement comme ça. J'aime bien quand on sort un peu du... J'aime énormément Zappa, par ailleurs, qui n'est pas franchement un prédicateur apocalyptique. Mais
Johnny Cash, peut-être.
J'aimais ça, oui, Johnny Cash, bah, bien sûr. Morrison était comme ça. Même Iggy Pop, même Nick Cave. J'ai toujours aimé ces espèces d'incarnation du paraclet. On va parler de Léon Blois bientôt. Le côté bloyen, presque, de ces gens.
Oui, alors on l'a vu, vous êtes également passionné par les grands mystiques, ces monstres d'amour en général, et les auteurs chrétiens en particulier comme Claudel, Huysmans, Bernanos et Léon Blois, dont vous venez de signer la préface de Constantinople et Byzance, réédité aux éditions Jérôme Billon. Pourquoi Léon Blois et pourquoi ce livre en 2025 ?
Alors, Léon Blois, je ne suis pas venu tout de suite à Léon Blois, j'y suis venu peu à peu. Et c'est un personnage, moi, d'une manière générale, sur lequel je travaille, je réfléchis, et même avec les personnages avec qui je vis, c'est toute cette espèce de cohorte, ce que j'appelle la cordillère des âmes, de cohorte d'écrivains catholiques, 19e, 20e siècle, qui ont maintenu vivant, je veux dire, une sorte de témoignage du témoignage christique, mais pas sous une forme institutionnelle, sous une forme assez maquisarde, de francs-tireurs de la foi, de mystiques marginaux, à la fois socialement et intellectuellement. Alors, on part de Joseph de Maistre, qui n'est pas repéré comme rocker au départ, ou comme c'est pas la Beat Generation, mais quand même, si on regarde sa vie, c'est une existence assez étonnante. Et puis après, Barbé d'Aurevilly, Huysmans, Léon Blois, Claudel crée dans un sort de moment étrange dans le défilé, dans la parade, et puis après Bernanos, tout ça. C'est effectivement des gens qui me passionnent depuis toujours et vraiment avec qui je vis. Et Léon Blois tout particulièrement, puisque c'est avant Bernanos qui sera son disciple, celui qui a radicalisé le plus, je dirais, l'expérience chrétienne au jour le jour, en se confiant entièrement en se mettant à la disponibilité de la Providence en totalité, lui, sa femme et ses enfants, vivant une misère, au moins une gêne permanente. Bernanos sera pareil. Donc ça, déjà, moi, c'est quelque chose que je trouve tout à fait extraordinaire. Et puis alors, cette espèce de volonté si constante de vouloir retrouver cet esprit du catholicisme, qui est un esprit de contestation radicale, de riposte permanente à la civilisation, je dirais, qui essaie l'émaner du 19e siècle bourgeois, positiviste, technocratique, industriel, voilà, et consensuel.
Il faut rappeler que Léon Blois, donc, c'est quand même un catholiste intégriste, comme on dit, résolument...
Ah non, alors c'est pas un intégriste catholique.
Non, mais dans le sens où il est résolument anti-bourgeois.
Intégraliste,
oui, c'est vrai, c'est plus précis. Résolument anti-bourgeois, qui déteste l'Église française, il ne cesse de la critiquer, il trouve qu'elle a soldé tous les idéaux d'un christianisme primitif pour se vendre aux plus riches et au pouvoir. Donc vous l'avez rappelé, c'était un mendiant. Il a vécu quasiment que de ce que lui donnait.
Oui, considérait que la mendicité était l'état naturel et spontané du vrai croyant. C'est-à-dire que le vrai croyant devait cultiver la charité en son prochain. Et donc, alors il passait pour un effroyable tapeur, pour un mendigo permanent. Mais c'est quelqu'un qui était justement dans la demande.
Bien ingrat, parce qu'il n'empêchait pas d'insulter des gens qui lui avaient donné de l'argent.
Oui, on pouvait pas l'acheter. Assez d'argent.
Non, mais on pouvait pas l'acheter.
Ah non, on pouvait pas l'acheter. D'ailleurs, quand il était en passe d'avoir ce qu'on appelle une position, c'est-à-dire qu'il arrivait à placer un article et peut-être un autre et puis un troisième dans un journal, je dirais, installé, que ce soit le Figaro, le Gil Blas, très rapidement, il faisait en sorte de se faire, Bernanos héritera de ça d'ailleurs, d'être amené à partir et à rompre. Ou à se rendre insupportable.
Est-ce qu'il n'y a pas chez lui une démarche qui pourrait s'apparenter à une forme de suicide social, c'est-à-dire qu'il sabote littéralement à chaque fois qu'il peut vivre de son écriture, il l'empêche.
Ben, je dirais que le suicide social, ça aurait été de rester dans les journaux avec lesquels il n'était pas d'accord. Là, il aurait véritablement consommé la mort de son, de son personnage, de son âme, de son esprit. Le suicide social, ça aurait été d'avoir une position. Le fait de la refuser est une manière, au contraire, de se sauver, d'accomplir sa rédemption.
Alors, il faut rappeler aussi que c'était un pamphlétaire redoutable qui maniait l'invective et l'insulte avec grand art. C'est aussi un très grand styliste. C'est ça qui vous touche chez lui ?
Alors, c'est l'un par l'autre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on désire être ce dont nous venons parler, un contestataire, enfin, je veux dire, un personnage, quelqu'un dont, qui ne vit que selon l'absolu et qui met en cause et qui met en crise systématiquement toute la société, tous les fondements de cette société, toutes les figures emblématiques de cette société, qui est celle de la société, je dirais, bourgeoise du 19e siècle et du 20e siècle. Quand on est ça, il faut avoir, je dirais aussi, quand on est un homme d'écriture, il est nécessaire de se doter d'un instrument absolument d'une efficacité redoutable. Et l'écriture bloyenne, qu'il a héritée de Barbey d'Aurevilly, autre grand contestataire, autre personnage central, qui était le maître de Blois, à la fois sur le plan social, sur le plan de l'écriture littéraire, sur le plan du catholicisme, des convictions intérieures et religieuses, il faut avoir véritablement un style qui soit un style absolument dévastateur, un véritable lance-flamme. Et ça a été le cas de Blois. La phrase bloyenne, l'humour bloyen et la capacité d'effraction du style de Blois est absolument extraordinaire. Alors, il faut savoir aussi, par ailleurs, que c'est un homme qui était fasciné par le Moyen-Âge de la foi, comme tous ces écrivains de l'époque. On a oublié on peut rajouter Verlaine parmi la liste que j'ai donnée.
Ou Hélo.
Ou Ernest Hélo également. Tout ce groupe-là, toutes ces figures étaient absolument fascinées par le Moyen-Âge. Et Blois allait même jusqu'à pratiquer l'enluminure. Il enluminait, même à la commande, des manuscrits, donc avec cette espèce de travail sur la lettre, sur la lettrine, et qui fait un peu penser aux grandes épées à deux mains, vous savez, les épées à deux mains.
Et à double tranchant, oui.
À double tranchant.
Le glaive.
Tous ces glaives comme ça, un peu à la forme très singulière. Et la phrase bloyenne, c'est cette espèce de glaive, comme ça, c'est un peu la langue de feu. Là. C'est l'épée. Vous savez, dans l'Apocalypse, le Christ a une épée qui lui sort de la bouche. La langue du Christ est une épée. Et ben, c'est ce qu'a voulu faire Blois, à retrouver l'épée, comme ça... l'épée qui est en même temps la langue chrétienne.
Donc il faut savoir que pour les auteurs que vous venez de citer, le sommet de la civilisation, non pas seulement occidentale mais même mondiale, s'arrête au XIIIe siècle. Et après c'est la décadence et arrive la Renaissance qu'il conspue. Même qu'il conchit. Est-ce parce que c'est quoi ? C'est les marchands qui prennent le pouvoir ? C'est ça qui les dérange ?
Oui, c'est un mélange à la fois de mercantilisation de la société, puisque l'aristocratie, la noblesse, qui est notamment pour garder le trésor légué, trahi d'une certaine manière. Le pouvoir passe aux marchands, la société se mercantilise. Alors c'est déjà ça à la fin du Moyen-Âge, à l'époque de la Renaissance, la naissance de la banque et du trafic, la découverte des grandes réserves d'or, du Nouveau Monde et tout ça. Tout cela est le fait des marchands et le fait des trafiquants. Et ça se confirme au XVIIIe siècle. Et donc, il y a une rupture spirituelle qui se pratique pour ces personnes. Et donc, la fin définitive, c'est la Révolution française. Et donc, c'est exactement comme après 68, ce qui s'est perdu sur le plan politique se regagne sur le plan culturel. Hein, on sait bien que le néo-polar vient de ce type de stratégie. Ben là, c'est exactement pareil. Le catholicisme a tout perdu lors de la Révolution française pour qu'il ne revienne politiquement, alors de façon un peu boiteuse, selon les régimes. Pendant la Restauration, oui, pendant l'ordre moral, un peu, mais enfin bon, et c'est encore un catholicisme, tout ce qu'il y a d'un petit peu
Aligre FM 93.1.
Comment dirais-je, justement, celui que combattront Barbet et Blois.
Sentimentaliste, plein de bonnes intentions.
Officiel, bien pensant, voilà. Pieusard, conformiste. Donc là, deuxième trahison. Et donc Blois, justement, c'est la littérature, c'est le journalisme, c'est le roman qui permettent d'une certaine façon de prendre le maquis et d'entrer en contestation. C'est une littérature maquisarde, faut bien se le dire.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1, en présence de François Angelier, qui nous parle d'une réédition d'un livre de Léon Blois qui s'appelle « Constantinople et Byzance aux éditions Jérôme Millon ». Alors, ce livre, « Constantinople et Byzance », c'est aussi l'affreuse répétition des crimes, des massacres, des guerres d'occupation et d'extermination qui ne cessent jamais. C'est aussi ça que vous avez voulu, vous et votre éditeur, rappeler ?
Alors, première chose, donc Jérôme Millon est un éditeur installé à Grenoble qui, depuis maintenant près de 30 ans, édite avec une sorte, là, lui aussi, de côté franc-tireur de l'édition, tout ce qui touche la philosophie, notamment la phénoménologie, la mystique. Et il y a un catalogue avec la belle collection, grande et belle collection Atopia, dirigée par l'écrivain Claude-Louis Combet. Et moi, j'ai créé une autre succursale, si j'ose dire, qui s'appelle Golgotha, les choses disent bien, c'est-à-dire le jardin, le lieu de la crucifixion, le Golgotha, sur toute la mystique post-révolutionnaire. C'est-à-dire tous ces courants, tout ce courant de catholicisme, pas revanchard, mais militant et maquisard, d'après la Révolution, 19e, 20e siècle. Donc il y a du Huysmans, bien sûr, il y a des livres sur la stigmatisation, il y a des livres sur Gilles de Rais. On est vraiment dans cette espèce de grande de mystique sanglante et doloriste, douloureuse. Et Blois est essentiel, évidemment, dans le parcours, et j'ai édité déjà plusieurs livres de Léon Blois, essentiellement des livres sur l'histoire, puisque des grandes fonctions de Blois, c'est l'exégèse historique, c'est-à-dire se pencher sur l'histoire humaine, pour, comme sur un texte sacré, c'est-à-dire lire l'histoire humaine comme on lisait la Bible, en essayant d'en avoir une intelligence intérieure la plus aiguë et la plus approfondie possible, essayer de voir comment certaines figures de l'histoire, certains faits de l'histoire, certains moments de l'histoire ne sont pas des événements mais des signes, c'est-à-dire interroger la fonction de signe de l'événement historique.
Ce qu'il appelle le symbolisme historique.
Voilà, absolument. Et ça, chez Blois, ça donne lieu à des... Alors, il y a des textes sur Marie-Antoinette, sur Jeanne d'Arc, sur Christophe Colomb. Son premier livre est un livre sur Christophe Colomb, en interrogeant le fait que signifie sur le plan de l'absolu et de la transcendance mystique le fait de découvrir l'Amérique. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, bon. Et c'est ce que je dis d'ailleurs dans un bouquin que j'ai consacré à Blois au Seuil. L'idée, c'est la suivante, c'est qu'il y a certains moments où Dieu exaspère l'histoire, Dieu exagère l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... L'histoire est portée au rouge. Alors c'est le cas pendant la guerre de Cent Ans, c'est le cas pendant la Révolution française, qu'il faut interroger comme un signe. Et c'est le cas aussi au moment de Byzance, au moment de la chute de Byzance. Qui est les moments les plus démentiels de l'histoire byzantine. Et là, donc, Blois se penche là-dessus en utilisant les travaux d'un historien de la Belle Époque, personnage éminent, grand numismate, grand érudit, qui s'appelait Gustave Schlumberger. Et donc, à partir des textes de Schlumberger qu'il cite abondamment, il greffe sa méditation personnelle. Et donc, alors, il faut dire aussi... que Byzance est un des pôles artistiques et poétiques intellectuels de la décadence, de ce mouvement fin de siècle à partir de 1880 qu'on appelait la décadence en France, et même qui court jusqu'à la Belle Époque. C'est-à-dire que ce moment de... Ça fait un peu penser à cette nouvelle « Le masque de la mort rouge » d'Edgar Poe, où le royaume est ravagé par la peste et les derniers, une espèce de bunker, c'est un peu comme le dernier jour d'Hitler, une sorte de palais qui est claquemuré, dans lequel l'aristocratie se livre au dernier, pour une sorte de bouquet final, de baroud d'honneur ou baroud de déshonneur, à une espèce d'excès, d'orgie, c'est aussi le cas de la République de Salo. Vous voyez, tous ces moments où tout n'est plus que concentré en un lieu, où toutes les richesses, tout le pouvoir. Et en même temps, on sait que les enjeux sont perdus. Et en même temps, bon, voilà. Alors, c'est un peu ça qui fascine Blois. Et ce dont il nous parle là, ça n'est pas tant les derniers jours de Byzance que les moments les plus démentiels de l'histoire byzantine, avec ses empereurs, avec ses luttes entre royaumes, avec cet affrontement comme ça. Et donc, ce qui le fascine, c'est le côté, je dirais, mortifère, mais somptueusement mortifère, ces espèces de charniers absolument, cette espèce de colossal charnier qu'est l'histoire byzantine. Et ça, pour lui, c'est un signe, et c'est un signe qu'il faut interroger, puisque là, c'est une sorte de moment où la figure divine semble envoyer des signaux forts, quoi.
Est-ce que Blois, par moment, on a l'impression, en le lisant, qu'il prétend savoir presque autant que Dieu lui-même, parce qu'il prétend connaître ses desseins et il prétend deviner ses volontés à travers ses signes historiques.
C'est-à-dire que Blois est un homme qui vit dans deux choses. La première, c'est ce que j'avais appelé l'imminentisme, c'est-à-dire il vit dans l'imminence de la fin des temps. Il a en lui cette croyance au paraclet, c'est-à-dire l'apparition de cette espèce de signe ultime qui signale l'entrée dans l'apocalypse. L'entrée en apocalypse du monde et de l'histoire. Alors à partir de là, il attend. C'est un homme de l'attente, de l'eschatologie. Il attend les derniers temps. On ne sait ni le jour ni l'heure, est-il dit dans l'Apocalypse. Mais néanmoins, on sait que ça va devenir. Donc Blois est dans l'attente, c'est la dimension absolument fondamentale de sa foi. Et à partir de là, il interroge néanmoins le monde dans lequel il vit, la société française entre 1870 et 1917, l'année de sa mort. Il interroge le spectacle du monde pour essayer d'y trouver des signes. Alors c'est tout à fait extraordinaire, puisque ça peut être aussi bien l'explosion d'une conduite de gaz boulevard Sébastopol, le déraillement d'un train, que l'éruption de la montagne Pelée, catastrophe aussi volcanique, donc à la Martinique, qui a détruit la ville. Et alors chaque fois qu'un événement, l'incendie du bazar de la Charité, alors, sur lequel il écrit un texte qui est resté célèbre par sa violence, mais sa violence est extrêmement éclairante en même temps. Et voilà, chaque fois que se produit un événement de cette taille, Blois se demande si ça n'est pas le signe qui signale, comme tous les signes, la mise en route du processus apocalyptique.
Mais est-ce qu'il ne s'est pas pris aussi pour un prophète ?
Ah ben c'est pas qu'il se prend pour un prophète, c'est qu'il considère que, comme tous les prophètes, il a été peut-être choisi par Dieu. C'est la différence entre le saint et le prophète. La sainteté, c'est une volonté personnelle et une ascèse de la volonté. Vous voulez vous sanctifier, donc vous êtes une espèce de discipline intérieure absolument terrible et d'ascèse de la volonté. Le prophète, il n'a rien demandé à personne. Dieu l'attrape par les cheveux et lui le secoue et lui dit « Voilà, toi, tu seras mon prophète ». Et donc je pense que dans le cas de Blois, il y a peut-être le sentiment d'avoir été élu. Et puisqu'on lui a dit qu'il a été une des femmes avec qui il a vécu, Anne-Marie Roulet, qui était une prostituée qui a évolué au contact de Blois vers une sorte de désir de vie, de sainteté, un peu comme ça, effaré.
C'est la Véronique du désespéré.
La fameuse Véronique de son roman Le désespéré lui avait confié quand même un secret selon lequel il serait sûrement celui qui est voué à assister au spectacle de la fin, avec un F majuscule. Et donc Blois, d'une certaine façon, a cru jusqu'à la fin, et donc attendait. Voilà, c'est un homme qui attend.
Ah, il faut
alors, il attend que vous alliez chez lui pour lui remettre une pièce de 10 francs. Il attend aussi la fin du monde.
Il faut dire que sur quelques vues historiques, il ne s'est pas trop trompé. C'est-à-dire que quand il parle des Allemands ou des Russes, il a bien compris d'où venait la catastrophe et d'où elle arrivait.
Oui, mais alors, il ne faut pas non plus... Alors justement, c'est là où Blois échappe au statut de futurologue ou de prospectiviste. C'est quelqu'un qui... D'abord, première chose, pour lui, on ne sait rien. On ne comprend rien à ce que l'on voit, on ne comprend rien à ce que l'on vit. Vous ne savez pas qui vous êtes, Frédéric Gournay, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous êtes peut-être, en définitive, l'empereur de la fin des temps, vous n'en savez rien. Trump n'est peut-être rien du tout. C'est ça, c'est ce que dit, par exemple, Blois très fréquemment dans son journal. Les grands Césars du moment sont peut-être rien du tout, et alors que, je veux dire, le mendiant qui est dans les rues de New York est peut-être l'homme qui décidera de la fin des temps. Donc on ne sait rien, l'homme ignore tout de la valeur et de la fonction des choses et des êtres. Donc à partir de ce moment-là, les événements qui surgissent, seuls certains peuvent les... Et quand Blois est témoin, lui, Blois qui a fait la guerre 70 dans les corps francs, donc il connaît la guerre, bon, ça, il n'a pas fait Verdun, mais il connaît l'expérience de la guerre et de la mort au combat, quand on voit apparaître à la fin de sa vie la Première Guerre mondiale, il considère que c'est effectivement un grand ramdam, mais ça n'est qu'une répétition de la fin. La différence de la Bernanos qui prendra la guerre plus au sérieux. Mais enfin, Blois n'a pas fait la Première Guerre mondiale, Bernanos l'a fait. Donc ce qui fait que l'expérience n'est pas la même. Mais Blois considère que c'est un grand random, c'est un roulement de timbales. C'est une sorte de moment où l'orchestre s'accorde dans la fosse et que la levée de rideau va intervenir. Mais ça n'est pas en soi. Il dit à un moment, mais entre la Baltique et les Alpes, on tue des millions d'hommes, ce qui est d'une totale banalité. Bon... Peut-être pas pour eux. Mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas de prospectivité, il n'y a pas de futurologie. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du prophétisme. Donc c'est encore autre chose.
Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de François Angelier qui nous parle de Léon Blois, Constantinople et Byzance. On va marquer une seconde pause musicale avec un morceau de Ravel. Et après, François Angelier nous expliquera pourquoi il a choisi ce morceau. Thank you. Vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 avec Léon Blois, dont nous parle modeste. Aujourd'hui François Angelier. Alors, j'ai une grande question. Est-ce que la plus grosse erreur de Léon Blois n'est-elle pas de cette méprise sur le sens du martyr, d'avoir mal compris la si belle leçon de saint Augustin à ce sujet, et qui prévient tout terrorisme, aussi bien intellectuel que politique? Je cite saint Augustin, « Le martyr est toujours souhaitable, il n'est jamais désirable ».
Alors, la question, Léon Blois a-t-il été un martyr?
Est-ce qu'il ne s'est pas trompé sur le sens du martyr?
C'est-à-dire qu'il y a une méfiance spontanée de tous les écrivains dont nous parlons à l'égard des martyrs. Je me souviens, quelqu'un qui est peut-être le dernier de la cohorte, qui est l'islamologue, l'orientaliste, grand mystique, grand politique, qui est Louis Massignon, avait toujours une sorte de défiance à l'égard des religieux qui, d'un siècle à l'autre, se jetaient dans le martyr, comme on se jette à l'eau comme ça, avec une espèce d'enthousiasme et presque de gourmandise de la souffrance. Et je crois que l'absence de martyr est une forme de... est peut-être la véritable forme de martyr. Et je pense que chez Blois, c'est ça un peu. C'est-à-dire que Blois n'est pas du tout un mystique du martyr.
Il l'appelle de ses voeux et il le réclame. On lit son journal qui a été réédité il n'y a pas longtemps aussi. Il parle beaucoup de ce désir-là de vivre le martyr.
Oui, mais comment dire, je ne crois pas que ce soit... Il en parle, mais ce n'est pas son désir fondamental. Son désir fondamental, c'est d'être... c'est un doloriste, parce qu'à l'époque, tout le monde est doloriste. Donc la piété de toute cette époque, au 19e et début du 20e, est une piété tournée vers la souffrance, que ce soit la souffrance de la stigmatisation, la souffrance du martyr. Mais c'est pas ça qui, à mon avis, chez Blois, est fondamental. C'est plus dans la souffrance qu'il a, c'est de ne pas assister, c'est de ne pas être... de ne pas comparaître, c'est-à-dire face au juge, comme ça. C'est de ne pas être, d'une certaine façon, appelé à comparaître au moment de la fin des temps. Je crois que son martyr, il est là. C'est pas un martyr, parce que quand on le voit... Alors, parlons de son journal. Quand on voit sa vie au quotidien, parce qu'il y a deux journaux, Léon Blois. Il y a un journal publié que, magistralement, a édité Pierre Glaude chez Bouquin, deux tomes, ce que je recommande à tous les auditeurs. Si vous avez envie de mourir de rire, ça, c'est quand même extraordinaire.
Ça fait quand même 1000 pages, les deux tomes.
Ah oui, mais c'est 1000 pages d'euphorie intellectuelle. Et puis, le journal inédit, parce que le journal publié est un journal tiré d'une masse d'écrits quotidiens qui était beaucoup plus importante, qui est publié à l'âge d'homme, 4 énormes volume. Et on voit le quotidien de Blois, c'est pas du tout quelqu'un... Enfin, Blois n'était pas un émissionnaire au Sahara comme Foucault, se livrait à des pratiques comme ça, ascétiques, redoutables, ni n'allait se jeter dans le... C'était quelqu'un qui allait au café, c'est quelqu'un qui vivait au quotidien dans Paris, voyez.
Oui, mais on peut parler de son martyr intérieur. Pour lui, l'idée, c'est quand même qu'il devait écrire, qu'il était forcé à œuvrer. En vain parmi les hommes, c'était que son écriture ne rencontrait jamais de succès, qu'il pourrait jamais en vivre, mais qu'il était quand même condamné à œuvrer, à faire cette œuvre-là, et que c'était là où était son martyr. C'est comme ça qu'il ressort vraiment dans la seconde partie de son journal. Enfin, il m'a semblé.
Absolument, oui, non, parce que qu'il ne soit, il a tenté, il tentait d'avoir des lecteurs. Je veux dire, faut pas se méprendre. Il publie au Mercure de France. Pour certains de ses livres, des fois chez des éditeurs un peu, comment dirais-je, symboliques, enfin, qui étaient plus des imprimeurs que des éditeurs. Et Blois avait quand même le désir d'être lu, le désir de partager. Mais il ne partageait pas. Alors effectivement, là, il y a peut-être socialement et intellectuellement le martyr d'un écrivain solitaire. D'un poète maudit, comme ceux dont Verlaine a fait un petit peu l'exégèse dans son recueil, les Corbières,
Rimbaud
et tout ça. Mais Blois, il y a quand même un ancrage dans le milieu de l'édition et de la librairie, quand il publie chez Stock, quand il publie au Mercure de France. Il y a quand même une volonté d'être, je dirais, en posture, d'être lu et d'être diffusé. Mais là où intervient le martyr, c'est qu'à aucun moment il n'a été lu et il n'a été vraiment diffusé. Il est toujours resté cette espèce de personnage singulier, solitaire, connu, mais quand même extrêmement marginalisé.
La question qu'on a envie de poser à Léon Blois et à François Angelier, c'est qu'est-ce que la foi sans l'espérance et la charité ?
Qu'est-ce que la foi sans l'espérance et la charité ?
On a l'impression que chez Blois,
ah si si, non mais si,
il a parmi les trois vertus théologales, il a la foi, c'est sûr, mais on le sent désespéré. Et on le sent assez peu charitable vis-à-vis de ses contemporains.
Si, c'est une forme de... Si, si, alors au contraire. Tout dépend de la conception qu'on a de la charité. On peut avoir une conception, je dirais, bonhomme et tranquille de la charité. La charité pour Blois, c'est de mettre le feu au monde. C'est-à-dire, c'est d'exiger du monde qu'il aille à la rencontre de l'absolu. C'est-à-dire, l'absolu... selon lequel Blois tente de vivre. L'espérance, c'est pareil. Je veux dire, Blois est l'homme de l'espérance. C'est-à-dire qu'il attend. Il attend vraiment. Il espère. Il espère en Dieu. Il espère en l'histoire. En Dieu dans l'histoire.
Il désespère aussi beaucoup. À un moment, il pense ne plus rien comprendre, ne plus rien savoir. C'est pas qu'il doute, mais il pense que peut-être qu'il va pas pouvoir assister à ça et pas pouvoir enfin...
Là aussi, bien sûr. Ça, c'est peut-être son vrai martyr là, c'est d'avoir attendu, d'être tendu, surtendu en permanence pendant des décennies dans l'attente du signe majeur et de l'événement, avec un grand E, et de ne jamais l'avoir. C'est le martyr de Blois, c'est ça.
Alors, en dehors des parentés immédiates, hein, comme Barbert d'Aurevilly, Huysmans, et puis les parentés après un peu plus tardifs, comme Claudel ou Bernanos, Blois, pour moi, a deux parents assez paradoxaux qui sont Nietzsche et Debord. Est-ce que vous voyez le rapport ou pas entre Blois et Nietzsche ?
Vous allez me le... Oui, enfin, je ne sais pas. Non, j'attends que vous m'expliquiez.
Alors, parce qu'en fait, il ne croit pas au progrès. Il croit à l'éternel retour du
Il croit à l'évolution, mais pas au progrès. Voilà. Enfin, il ne croit pas que le progrès en soit. Oui, ça, c'est clair. Oui.
Ensuite, il pense que c'est toujours l'éternel retour du pire dans l'histoire de l'humanité. Et le livre Constantinople et Byzance le montre. Mmh. Et ensuite, il pense que seul le surhumain peut nous sauver. Ce que redira Heidegger. Hein. Et quant à Debord, Debord a revendiqué la filiation avec Blois. Mmh. Il en parle dans sa correspondance. Et on retrouve quelque chose de très boyen dans l'écriture de Debord, dans cette intransigeance, dans cette radicalité. Et lui pensait aussi au pouvoir du négatif et du nihilisme et qu'on pouvait peut-être les retourner contre eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de ça chez Blois ?
Écoutez, je ne sais pas. C'est Blois et le nihilisme, j'y crois pas. Enfin, ça me semble.
Il en parle beaucoup du nihilisme.
Oui, mais
il a bien saisi le nihilisme de l'époque, quand même.
Oui,
il
que l'époque bien. Soit nihiliste, mais que lui en fasse un outil de... Non, je crois plutôt... Blois est un homme est un dévot du Saint-Esprit, c'est un homme du feu, c'est pas un homme de... Bernanos était beaucoup plus hanté par le vide. Là, il y a une sorte de translation qui peut se faire de Blois vers Bernanos. La dernière vision que Bernanos a du mal, c'est Monsieur Wynne, qui est un personnage, dans le dernier roman paru en France juste après la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Wynne est un prof à la retraite, mais on voit, c'est le diable, c'est le mal, et le mal n'est plus un incendiaire, le mal est une pompe à vide, est une machine à créer le vide. Donc cette espèce de hantise du vide qui se crée, qui avale littéralement le monde, c'est plus une donnée bernanosienne. La grande donnée bloyenne, c'est le feu. Alors, c'est beaucoup plus un anarchiste de type Ravachol, du type de tous les poseurs de bombes,
les nihilistes russes et allemands.
Oui, enfin, c'est beaucoup plus du côté de la solitude de l'anarchiste, de l'attentat anarchiste, du terrorisme anarchiste de la Belle Époque et de la fin du 19e, qu'on doit aller chercher, je dirais, peut-être un cousinage avec Blois. Plutôt que dans une espèce d'invocation du nihilisme, même s'il considère que l'époque est vide et qu'on chercherait vainement une petite lueur ou une graine, quelque chose qui puisse pousser et fructifier. Ça, il le pense. Mmh. Mais je crois que le rapport à l'histoire est celui du feu. Lisons son texte sur l'incendie du bazar de la Charité. À un moment, il dit « Tout le monde est terrorisé quand on crie au feu ». Mais quel sera le sentiment du général le jour où on criera au Saint-Esprit ?
Merci beaucoup François Angelier d'être venu nous parler de ce livre de Léon Blois et de votre travail sur France Culture dans Mauvais Genre. Merci beaucoup à Stéphane et à René qui ont assuré la technique derrière la vitre. Pour notre part, on se retrouve dans 15 jours et j'aimerais encore saluer Yves et lui dédier cette émission. Merci, à très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.